Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Osée. Le thème de la méditation que le Seigneur a mis sur mon cœur à la fin du mois de mars, c'est connaître Dieu. C'est tout un programme, c'est un vaste programme qui ne peut pas être, abordé complètement en simplement un culte, mais on peut aborder quelques points. Tout d'abord, se poser la question, est-ce que c'est prétentieux de connaître de prétendre connaître Dieu sur cette terre? Ou est-ce que ça relève plutôt de la présomption, de l'utopie? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est inatteignable? Vous savez, un jour, Job était dans une situation très difficile et un ami est venu le voir, à lui, Tsophar, et lui a dit, Job 11, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Il lui dit ça d'une façon ironique. À cette question, on peut dire oui, c'est possible de connaître Dieu. Et on peut même dire que c'est un sujet de gloire pour l'homme et un sujet de satisfaction pour Dieu. On peut même ajouter que si l'homme peut, devant Dieu, se vanter ou se glorifier, le terme est plus exact, de quelque chose, c'est bien celui de le connaître. C'est ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Jérémie 9, 23 dit « Que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » On voit l'importance que ça a aux yeux de Dieu et donc l'importance aussi que ça doit revêtir pour nous, enfants de Dieu. Deuxième point, de tout temps, Dieu a exhorté, a encouragé les hommes à le connaître. Déjà les prophètes sous l'ancienne alliance mettront l'emphase dessus. Osée 6,6, et vous pouvez regarder Osée 6,6, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, Paul lui-même en fera un sujet de prière principal pour lui-même et un objectif personnel pour sa propre vie. Je lis dans Éphésiens 1, il dit « Je fais mention de vous dans mes prières » en parlant à l'église d'Éphèse. Afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On voit l'importance que ça avait pour Paul, pour sa propre vie. Il dira même qu'il a renoncé à tout pour pouvoir obtenir cet objectif, atteindre cet objectif de connaître Dieu. On verra un peu plus loin au travers de Jésus, plus particulièrement. Et une question, si pour Paul c'était une priorité, un objectif principal pour l'Église du 1er siècle. Est-ce que ça ne devrait pas être pour nous, de la même manière, pour l'Église du 21e siècle, une priorité, à titre individuel et à titre collectif en tant qu'Église, rechercher à connaître Dieu parce que ça plaît à Dieu, parce que Dieu prend plaisir à ça. Et ce qui est important pour nous chrétiens, c'est de rechercher des choses auxquelles Dieu prend plaisir. C'est ça, parce qu'on peut prendre plaisir à beaucoup de choses et c'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de rechercher et de faire ce à quoi Dieu prend le plus plaisir. Ça doit être ça l'objectif de nos vies. Et de nous glorifier de ce dont on doit se glorifier, c'est-à-dire de connaître Dieu, de chercher à le connaître de plus en plus. Les conséquences de l'absence de la connaissance de Dieu dans la vie des hommes, on peut dire qu'elles se font cruellement sentir. Aussi bien à l'époque du royaume d'Israël que dans l'Église d'aujourd'hui. Dans le royaume d'Israël, quelques exemples, toujours Osée, Osée 4, du verset 1 à 3. Juste quelques points, on peut voir qu'à cette époque-là, dans le royaume d'Israël, il n'y avait pas de vérité, il n'y avait pas de miséricorde, il n'y avait que des parjures, des mensonges, des assassinats, des vols, des adultères, de la violence, des meurtres, du deuil, de la tristesse, de la dépression, quand il dit que le peuple était languissant. Et là, on peut se dire la cause profonde de cet état. Quelle est la cause profonde de cet état indigne du peuple de Dieu? Verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et de rajouter, « Puisque tu as rejeté la connaissance, tu as oublié la loi de ton Dieu. » Dieu dit, « Eh bien, à ce moment-là, je te rejette de la même manière. » La cause de tous ces problèmes-là dans le royaume d'Israël, le peuple de Dieu, qui connaissait Dieu, qui avait Dieu pour qui avait l'Éternel pour Dieu, qui devait en tous les cas connaître Dieu. Dieu dit, voilà pourquoi tu es détruit, pourquoi tu as tous ces problèmes dans ta propre vie. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, tu as oublié la loi de ton Dieu. Dans l'église d'aujourd'hui, on peut prendre l'exemple dans l'église de Corinthe, on peut voir qu'il y avait toutes sortes de manifestations charnelles en son sein, parmi ses membres. Je lis juste dans 2 Corinthiens 12, 20 à 21 par exemple, Paul dit « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, l'orgueil, des troubles. » Il parlera d'impureté, de débauche, des dérèglements. Et dans l'Église, il dit « Paul, je crains de venir et vraiment de pleurer au milieu de vous. » À un autre endroit, il parlera d'une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, dans l'église. 1 Corinthiens 5, versets 8 et 13, il parlera de malice, de méchanceté. À un autre endroit, il parlera de division, de procès qu'ils se faisaient les uns au milieu des autres. Ce n'est pas parce que nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, que parce que nous avons cette étiquette-là, ce nom-là, nous allons être dispensés, protégés de tout ce que les autres peuvent vivre. Ça peut même être pire au milieu de nous. Ça peut même être pire en nous, si nous n'avons d'appartenance à Dieu que le nom. Si nous n'avons pas la réalité, la connaissance de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est la connaissance de Dieu. C'est pas le fait de dire je suis chrétien, je connais Dieu, je suis né de nouveau, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis pentecôtiste, j'appartiens à l'Église. Non, c'est le fait que je connais Dieu. C'est ça qui va changer ma vie. C'est ça qui va faire qu'il y a un changement dans l'Église. C'est la connaissance de Dieu. Et dans cette église, la cause profonde de tous ces maux, même constat. 1 Corinthiens 15, 32, Paul dira « Revenez à vous-même, comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Donc on voit déjà qu'aux yeux de Dieu, c'est une honte de ne pas le connaître. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions connaître Dieu, être en marche, aller de progrès en progrès, connaître de plus en plus Dieu. Et il leur dira, revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Bien des comportements dans nos vies, dans ma propre vie, sont la conséquence du fait que je ne connais pas Dieu, que je ne connais pas bien Dieu, que je n'ai pas bien connu Dieu, ou que je me suis éloigné de cette connaissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu entend par le connaître ? Plusieurs significations possibles. C'est certes savoir des choses sur Dieu, c'est important de savoir des choses sur Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est de la parole de Dieu. Il faut entendre, il faut lire, on apprend beaucoup de choses. En lisant la parole de Dieu, on apprend des choses sur Dieu. Est-ce simplement ça la connaissance ? Ça l'inclut, mais ça n'est pas vraiment le sens premier. Le sens biblique dépasse largement la simple connaissance intellectuelle. Ça signifie rentrer en relation personnelle avec lui. Voilà, c'est ça, connaître Dieu. C'est rentrer en relation personnelle avec Dieu. C'est l'établissement d'une relation intime entre le croyant et son Dieu. Et il donne même un modèle, sur le modèle de la relation du mari avec sa femme. Et finalement, la relation conjugale est la relation la plus proche qui puisse exister. C'est la relation la plus proche qui puisse exister sur Terre. Il n'y a pas de relation plus proche, en tout point. Genèse 4.1, il est dit que Adam connut Ève, sa femme. Ça inclut cette relation physique, cette connaissance intime, profonde. Le mari avec sa femme est appelé à devenir une seule chair. Le croyant avec son Dieu est appelé à devenir un seul esprit avec son Dieu. Avec Dieu, on est appelé à vivre une intimité spirituelle, car Dieu est esprit. Mais ça inclut également, ça impacte également l'âme, l'intellect, l'affect, et j'allais dire même le corps aussi. Parce que, et ce n'est pas l'essentiel, mais c'est vrai que parfois on peut même expérimenter la présence de Dieu, on peut ressentir quelque chose de Dieu physiquement même. mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable et ce n'est pas essentiel. Mais comme nous sommes esprit âme et corps, quand Dieu nous impacte au niveau de l'esprit, ça peut avoir des conséquences, ça doit avoir des conséquences sur notre âme, sur notre intelligence, notre raisonnement, sur nos affections, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur notre corps même. On peut être apaisé différentes choses au niveau de notre corps. Peut-on parler ? On peut parler de relations quasi-conjugales sur un plan spirituel, entre le croyant et son Dieu. Cette relation, elle a été annoncée par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Osée 3,18, toujours dans Osée, Dieu dit « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. » Donc on voit la relation que Dieu veut, recherche. Verset 21-22, « Je serai ton fiancé pour toujours. Et tu reconnaîtras ou tu connaîtras l'Éternel. » C'est ça le but de Dieu pour nous. C'est que nous ayons une relation personnelle, intime, profonde avec Dieu. Cette relation qui a été annoncée par les prophètes de l'Ancienne Alliance, elle est vécue en prémisse, dès maintenant, par l'Église sous la Nouvelle Alliance. Paul le dira aux Corinthiens, de Corinthiens 11, il dira « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et Christ est l'époux de l'Église. Et nous sommes sa fiancée. Cette relation, elle sera parfaitement accomplie dans le ciel, après les noces de l'agneau. Apocalypse 19, 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » L'Église sera alors unie parfaitement à son Seigneur, et cela pour l'éternité. Parce qu'on le verra tel qu'il est. On le connaîtra tel qu'on a été connu parfaitement. Aujourd'hui, c'est par la foi. Mais c'est déjà tellement énorme ce que nous pouvons vivre et ce que nous sommes appelés à vivre sur la terre. Apocalypse 21.2, cette église, elle s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, nous le connaîtrons comme nous avons été connus. De quelle manière Dieu se fait-il connaître, se révèle-t-il à l'homme ? De différentes manières. D'ailleurs, un point important, c'est qu'en tout temps, et cela dès le début de la création de l'homme et même après la chute, Dieu a cherché à parler à l'homme, à rentrer en communication, en communion, en communication avec l'homme. En tout temps, Dieu a cherché à rentrer en communication avec l'homme, à se révéler à lui. Job 33, 14, il est dit, il ne rend compte aucun compte de ses actes, mais Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est qu'il ajoute... L'homme n'y prend point garde. Mais Dieu parle de différentes manières. Dieu parle encore aujourd'hui. Quand les gens disent, moi je pose Dieu, est-ce qu'il existe ? Dieu parle de différentes manières. Mais souvent, c'est l'homme qui n'y prend point garde. Ou qui ne veut pas y prendre garde. Et y prendre attention. Plusieurs points. Je dirais, le premier niveau de révélation, c'est au travers de la création, de la nature. Paul aux Romains parlera de ce qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour les hommes. Dieu le leur ayant fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et c'est vrai que si on est honnête et qu'on regarde la création de Dieu, aussi bien la création humaine, quand vous voyez un bébé, déjà quand vous voyez les échographies dans le ventre de la maman, quand vous voyez un bébé, tout est là en tout petit. C'est extraordinaire. Et ça grandit, c'est extraordinaire. L'infini petit, l'infiniment grand, quand vous regardez la nature, les animaux, les arbres, tellement de choses, on se dit, mais c'est merveilleux. Et ça nous amène à Dieu, ça, c'est le premier niveau de révélation. D'avoir les yeux ouverts, il y a un cantique que beaucoup connaissent, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, tout ce qui est formé à ton image, le firmament, etc. Et ça nous pousse à quoi ? À dire... Alors, de tout mon cœur s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ça nous conduit vers Dieu, à l'adoration. Jésus va aussi diriger ses disciples et nous diriger de la même manière, nous inviter à contempler la nature. En prenant l'exemple, par exemple, des oiseaux du ciel. Matthieu 6, il dira, « Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Il prendra l'exemple de fleurs, les lys des champs. Il ne travaille ni ne fuit. Et même Salomon, qui était le roi le plus. Qui a eu la richesse la plus importante, qui avait des vêtements extraordinaires, une richesse extraordinaire, même lui n'a jamais été aussi bien vêtu que cette fleur des champs, qui un jour est là et qui le lendemain ne l'est plus. Mais Dieu prenait soin d'elle. Moi, je me souviens d'un moment difficile où on a eu des soucis au niveau de notre maison. Et je me trouvais énervé, inquiet et assez angoissé dehors en train d'essayer de faire des réparations comme je pouvais. Et il y a eu un tout petit moineau, un tout petit moineau qui s'est approché de moi. Je donnais des coups de pelle, je jetais la terre et un tout petit moineau s'est approché de moi. Mais tout près, hein, à quasiment 1 mètre 50 de moi. Et au départ, il m'énervait cet oiseau parce que je n'étais pas disposé à contempler la nature du tout. Et puis j'ai vu qu'il insistait. Alors j'ai jeté un peu de terre dans sa direction. Eh oui, pas sur lui, dans sa direction. Dans sa direction. Il a fait un petit pas en arrière et il est revenu. Et ça m'a quand même interpellé quand même. Parce que normalement, quand vous faites un pas comme ça, hop, ça, ils s'en vont. Et il est revenu, il est resté. Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que j'ai vu Dieu derrière tout ça. J'ai vu Dieu derrière tout ça. J'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu l'attention de Dieu. Vous voyez, au travers d'une de ces créatures qui s'approchait, qui me regardait, ça m'a donné envie de pleurer. Je me suis dit, combien Dieu est bon, combien Dieu prend soin de moi, au travers des petits détails, de ce petit moineau. Par des rêves, par des songes, par des visions. Job 33 dira, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Parfois, l'homme éveillé ne veut pas entendre parler de Dieu, ne prête pas du tout attention. Alors Dieu va le parler quand il ne peut pas maîtriser. Et là, parle. Et Dieu parle à ce moment-là, encore. Et si on est honnête, on peut reconnaître que Dieu nous a avertis de différentes manières, a voulu nous révéler de lui, des choses de lui, de sa personne, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Ésaïe a eu une vision magnifique de la gloire de Dieu. Ésaïe 6, vous pourrez lire ça, Ésaïe 6, du verset 1 au verset 9. Il a vu le Seigneur assis sur son trône, les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Il a eu la vision de la sainteté de Dieu, saint, saint, saint et l'éternel. Il a eu la vision de sa propre impureté et de celle du peuple. Mes lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il a eu aussi la vision de l'expiation, de la purification de son péché qui a été opéré par Dieu même. Et de là même va naître, de cette vision, son désir de servir Dieu, de se mettre à sa disposition. Quand il dira versets 8 et 9, « J'entends la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il répondit, « Me voici, envoie-moi. » Au travers de cette vision, Dieu a fait un tel travail dans son cœur. Et une réflexion à partir de là, on ne sert pas Dieu pour le connaître, mais on le sert parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a rencontré. Et mieux on le connaîtra, et mieux on le servira, et plus on aura envie de le servir. Mais ce n'est pas plus on sert Dieu, plus on est dans l'activité, que plus Dieu va nous quelque part bénir, vous voyez, et faire qu'il va plus se révéler à nous. Non, c'est parce qu'on le connaît, parce qu'on s'approche de lui, que plus on aura envie, d'abord on entendra plus ce que Dieu veut nous dire, et plus on aura envie de se mettre à sa disposition. Et bien souvent dans nos cœurs, il peut y avoir ce manque d'élan, parce qu'il y a ce manque de connaissance de Dieu. Alors on peut forcer, on peut inciter, mais à la base, il y a parfois un manque simplement de connaissance de Dieu. Parce que même Paul, quand il a la vision du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, lui qui était parti pour persécuter l'Église, son corps, eh bien il va tomber devant le Seigneur, devant cette vision, il va dire « Qui es-tu, Seigneur ? » Il reconnaît que Jésus est Seigneur. Il est tout tremblant, il est saisi d'effroi. Il va dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Immédiatement, il a cette révélation de Dieu, cette vision de Dieu, cette connaissance de Dieu. Et immédiatement, il veut se mettre au service de son Dieu. « Que veux-tu que je fasse ?» Combien d'hommes et de femmes ont eu la révélation de Dieu, la révélation de Christ, dans des pays qui sont fermés à l'Évangile, simplement par une vision ? Par une vision, Dieu leur a parlé, Dieu parle encore par des visions. Dieu parle aussi par quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, mais qui est un élément important, par la douleur, par l'épreuve. Dieu parle par la douleur et par l'épreuve. La douleur, l'épreuve n'est pas seulement là pour nous faire mal, mais au travers de l'épreuve, de la douleur, des choses qui ne vont pas comme nous voulons, Dieu veut nous parler et Dieu nous parle. Et parfois, là aussi, on n'y prête pas attention. Job dira 33:19, « Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. » Osée 2, versets 16 à 25, vous pourrez lire, ce passage est vraiment très, très, très enrichissant, très, très riche, où le peuple d'Israël était éloigné de Dieu, et Dieu dit « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. » C'est-à-dire que Dieu va être obligé, parce que son peuple s'est éloigné, de l'attirer au désert, là où il n'a plus ses éléments sur lesquels il pouvait se reposer, où il est dépouillé de tout. Et c'est là que Dieu va pouvoir parler à son cœur, parce que c'est ce que Dieu veut, mon frère, ma sœur. C'est que Dieu veut parler à ton cœur. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui l'intéresse, Dieu. Au travers de tout ce qu'on fait, de tout ce qui est fait, de tout ce qu'on fait, ce ne sont que des moyens pour arriver à la connaissance de Dieu. C'est ça. Le but, c'est de nous amener à connaître Dieu, à mieux le connaître, à le rencontrer de manière personnelle. Moi, je me souviens, sans difficulté, de ma mère qui est décédée l'année dernière et qui connaissait le Seigneur depuis longtemps et au cours d'une grave maladie dégénérative et qui l'a bien, bien diminuée. Eh bien, les derniers temps, vraiment, de sa vie, elle m'a dit qu'elle a réalisé l'amour de Dieu. C'est dans ces circonstances qu'elle a réalisé l'amour de Dieu et qu'elle l'a expérimenté de façon toute personnelle. Vous voyez ? Et elle était là, glorifiant Dieu, me disant quelques jours avant sa mort, alors qu'elle savait pas qu'elle allait mourir, rien ne prévoyait qu'elle allait mourir, elle disait « Mais je suis émerveillée de la grandeur de Dieu. » Elle a été touchée par l'amour de Dieu. Là où une épreuve, une maladie, quelque chose d'incompréhensible pourrait à vue humaine nous éloigner de Dieu, eh bien, une épreuve en Dieu va nous amener plus près de lui. L'épreuve que tu vis, mon frère, elle est peut-être difficile, elle est certainement difficile, mais au travers de ça, Dieu veut t'amener plus près de lui. Et c'est le but de notre vie chrétienne. C'est d'apprendre à connaître Dieu. Un jour, quand nous serons au ciel, nous le connaîtrons tel que nous avons été connus. Ce ne sera plus un but, mais ce sera simplement une réalité. Mais aujourd'hui, ça doit être le but de notre vie, de chercher à connaître Dieu, de le rencontrer. Toujours plus personnellement. Les disciples dans la barque, au milieu de la tempête. Jésus est au milieu et ils se mettent à crier « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus va leur dire « Mais pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi ?» Il va se lever, il va menacer le vent, la tempête, et il va y avoir un grand calme. Et là, tous vont être étonnés, se disant « Mais à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ils vont découvrir au travers de ça l'autorité de Jésus, au travers de cette épreuve, l'autorité de Jésus même sur les éléments naturels, les plus incontrôlables, les plus violents. Et je peux dire, à titre personnel, et combien au milieu de nous peuvent dire également que Dieu est celui qui calme les tempêtes. Mon frère, ma sœur, tu vis peut-être une tempête dans ta vie, personne ne le sait. Peut-être. Tu vis peut-être une tempête dans ta barque, dans ton couple. Tu vis peut-être une tempête. Tu vis peut-être une tempête dans ton travail. Je ne sais pas où tu la vis, cette tempête. Peut-être cette tempête, elle est dans ton cœur. Et tu n'arrives pas, tu te dis, je vais être submergé, comme les disciples. Je vais couler. Tu n'arrives pas. Je peux te dire que Jésus a l'autorité sur toutes les tempêtes, qu'elles soient dans ton cœur ou qu'elles soient dans tes circonstances. Ne perds pas courage. Jésus a autorité sur toutes les tempêtes de nos vies. Amen. Amen. Dieu va nous parler, et Dieu va se révéler par sa parole. Paul à Timothée dira que toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est soufflée de Dieu. On apprend des choses sur Dieu, mais surtout on apprend à connaître Dieu au travers de la parole de Dieu, et c'est comme ça qu'on doit lire la parole de Dieu. Jean le dira, Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est Dieu. Combien de fois Dieu m'a parlé par sa parole ? Combien de fois ? Combien de fois dans différentes circonstances ? Et Dieu veut te parler par sa parole. Je dirais que c'est le moyen privilégié par lequel Dieu veut parler, veut te parler. Dieu ne pourra jamais nous dire quelque chose qui soit en contradiction avec sa parole. quand on entend quelque chose, quoi que ce soit un don spirituel ou autre, on doit toujours avoir le bon réflexe, comme les chrétiens de Béret, de vérifier si ce qui nous est dit est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le but premier quand on ouvre la Bible, c'est de chercher à rencontrer Dieu lui-même. C'est pas de dire, je vais lire mes 3 chapitres. C'est bien de le faire. Mais ce n'est pas un acte religieux. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, on doit chercher à rencontrer Dieu. Un sentiment personnel. Quand je suis dans une réunion, pour moi, le but est atteint quand j'assiste, j'assiste à une réunion. Le but est atteint quand, à un moment donné, je déconnecte, que ce soit au niveau des chants, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de la prédication, et je rentre en contact personnel avec Dieu. Et je sens que Dieu me parle personnellement. Et ça me touche personnellement. Là, je dis, le but est atteint pour moi. Mais dans tout ce qu'on fait, le but, c'est ça. On peut entendre beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses, mais repartir tel qu'on est. Et le but n'est pas atteint. Le but, c'est de rencontrer Dieu dans nos rassemblements. C'est que Dieu, il y a une rencontre personnelle entre Dieu et nous, dans notre cœur. La Bible n'est pas un livre magique de recettes, seulement un livre de promesses. C'est le livre de Dieu dans lequel et au travers duquel Dieu nous parle, et nous parle personnellement. Il faut apprendre à aimer, il faut aimer la Bible. Il faut aimer la parole de Dieu. L'aimer, elle nous gardera si on l'aime. Dieu va nous parler par le Fils. Évidemment, n'est-il pas la parole faite chair? Et toute l'Écriture va nous ramener à Christ. Il est le seul moyen, le seul chemin pour apprendre à connaître Dieu. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous est là et veut chercher à connaître Dieu ou prétend connaître Dieu, mais il n'y a pas de révélation possible en dehors de Christ. Christ est la révélation de Dieu. Tu ne peux connaître Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. Hébreux dira que, Hébreux 1, que Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. Avant il nous a parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps Dieu nous a parlé par le Fils. C'est la dernière révélation. C'est la révélation parfaite. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Un Jean dira que le Fils est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. La véritable connaissance de Dieu, elle se trouve en Jésus. Ne cherche plus ailleurs. C'est pour ça qu'il ajoute Jean, dans sa première épître de Jean, chapitre 5, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. En dehors de Christ, tout est idole, finalement. » Paul dira aux Colossiens qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça y est, tu as tout en Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu as tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en Jésus. Tu as tout pleinement en lui. Tu vas nous parler par les dons spirituels. Et on passe. Mais c'est important, Dieu nous parle par les dons spirituels. Il faut être ouvert, mais toujours ramené à la parole de Dieu. Et vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. La Bible dit d'examiner toutes choses dans nos rassemblements. Par le témoignage intérieur, celui du Saint-Esprit, Romains 8 dira, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais on a reçu un esprit d'adoption. Cet esprit va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça que Dieu va rentrer en communication avec nous par son esprit. Il va témoigner à notre esprit. On va expérimenter, on a expérimenté. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ce que Dieu veut faire. Vous donner d'expérimenter la communication du Saint-Esprit à notre cœur. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées encore au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées, la Bible dit, par l'Esprit. C'est ce que Dieu veut faire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Dieu nous parle dans le cœur. Il nous donne des paroles qui vont nous diriger, qui vont nous conduire, qui vont nous apaiser. Combien d'expériences, si on prenait le temps, combien d'expériences où Dieu nous a parlé personnellement. Par la prière, évidemment, Dieu va nous parler. Il va se révéler plus particulièrement à celui qui l'invoque, qui le recherche, qui lui demande. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses glorieuses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible dit que quand nous contemplons Dieu, que nous sommes dans l'adoration, comme nous l'avons été ce matin, et que notre visage est découvert, notre cœur est ouvert, eh bien nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. C'est ce qui se produit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et alors, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Voilà ce qui se produit quand nous sommes face à Dieu, dans la présence de Dieu, de cœur à cœur. Eh bien Dieu imprime sa volonté, imprime sa personnalité, son caractère sur notre cœur, et nous sommes transformés. Un chant le disait, nous élevons ta voix, nous voulons, présentons nos vies, nous voulons que nos vies soient transformées. Mais c'est ça, moi c'est tous les jours ma prière, Seigneur, transforme-moi, continue de me transformer, ne me laisse pas comme je suis. Merci pour ce que tu as fait, mais j'ai tellement besoin que tu me transformes. J'ai tellement besoin que tu avances encore dans mon cœur, que tu me changes. On ne peut pas s'arrêter là, enfin moi je ne peux pas m'arrêter là. On ne peut pas m'arrêter là, ce n'est pas possible. Très rapidement, les incidences dans la vie de celui qui connaît Dieu. C'est d'abord vivre la vie de Dieu, la vie éternelle. Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Cette vie éternelle, c'est une qualité de vie. À la Samaritaine, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette femme dit plus loin, eh bien, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'aille plus puiser à ce puits. C'est le puits de l'insatisfaction. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu n'arrêtes pas de faire des efforts d'aller. Elle avait une grande distance à faire, il faisait très chaud, pour aller puiser quelques gouttes d'eau. Beaucoup de fatigue, de l'insatisfaction, j'appellerais ça le puits de l'insatisfaction. Et peut-être tu es là en train de puiser par tes propres forces au puits de l'insatisfaction. Mais Jésus est là, il est la source d'eau vive. Tu n'as pas besoin d'aller de droite, de gauche. Il y a cette vie que Dieu veut te donner, te communiquer, cette vie éternelle, cette vie de satisfaction qui fait que tu n'auras plus besoin de courir de droite, de gauche pour remplir ton cœur. Avoir la vie de Dieu, la vie éternelle, connaître sa nature profonde également. Voilà les incidences que ça va avoir. Jésus dira, Jérémie dira, celui qui se glorifie, Jérémie 9, 23, que celui qui se glorifie de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Apprendre à connaître ce à quoi Dieu prend plaisir, ce que Dieu aime, sa nature profonde, la nature profonde de Dieu. Dieu prend plaisir à la bonté, au droit. Dieu est un Dieu, non seulement un Dieu d'amour, c'est vrai, mais Dieu est aussi un Dieu de droit, un Dieu de justice. Ça n'est pas incompatible. Les choses ne s'opposent pas. Dieu aime aussi la justice. Dieu aime l'amour. Dieu est amour. Mais il aime la droiture aussi. Les chemins, la Bible dit que les chemins que Dieu fait dans Osée, ils sont droits. Les justes, ils marchent. Mais ceux qui ne sont pas justes, eh bien, ils tomberont. Dieu aime la droiture. Connaître la nature profonde de Dieu, aimer nos frères et sœurs en Christ. C'est pas naturel. Moi, je me souviens d'une sœur avec qui que je connais bien, qui avait déjà un certain âge et qui est une servante du Seigneur et qui me disait qu'elle a mis 10 ans à aimer l'Église. Elle a mis 10 ans. Elle a eu l'honnêteté de le dire. Elle a mis 10 ans à aimer l'Église. Elle dit j'aimais pas les gens et j'aimais pas l'Église. Et Dieu, parce qu'elle a persévéré, a transformé son cœur. C'est pas naturel. C'est pas naturel. On ne se connaît pas tous, on est différents, on n'a pas les mêmes. Vous voyez, c'est pas naturel, c'est pas évident. Même dans une famille, c'est pas si facile que ça, entre frères et sœurs, dans la chair. C'est pas forcément si naturel que ça, à plus forte raison. Ce qui veut dire qu'il y a besoin d'avoir une rencontre personnelle, de connaître Dieu, qui va mettre dans notre cœur cet amour, qui est un amour surnaturel. 1 Jean 5, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. La véritable marque de fabrique de celui qui connaît Dieu, c'est sa capacité à aimer l'Église et ceux qui la composent. Et là, un point qui est un point important, la nouvelle naissance est une condition nécessaire pour pouvoir aimer et pour pouvoir aimer l'Église. Mais elle n'est pas suffisante. Il faut connaître Dieu. Être né de nouveau. On ne peut pas profondément aimer nos frères et sœurs, aimer comme Dieu, si on n'est pas né de nouveau. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Pour véritablement aimer comme Dieu, il faut apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître. Et on doit aller de progrès en progrès. On ne fabrique pas l'amour. Ça va nous amener à faire également les impacts, à faire comme lui. Parabole du bon samaritain, Jésus va lui dire, va et toi fais de même. Quand on voit Jésus faire le lavage des pieds, quand Jésus va laver les pieds des disciples, il va leur dire, eh bien vous aussi, vous m'avez vu faire, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien, eh bien vous, faites de même. pratiquer la miséricorde et se mettre au service de nos frères et sœurs. Connaître l'affranchissement et la liberté intérieure, voilà une autre conséquence de la connaissance de Dieu. Je dirais que c'est sous le signe de la transformation. Vous savez, Paul dirait « j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». Il y a cet asservissement au péché. Mais Jésus ajoutera « vous connaîtrez la vérité, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Alléluia ! Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu vis peut-être des chaînes, tu as peut-être des chaînes et tu le sais, des passions qui te lient et tu le sais, c'est plus fort que toi. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Va en communion avec Jésus. Prie-le, supplie-le, rentre en communion personnelle avec lui. Et lui seul est capable de briser nos chaînes intérieures. Amen, de nous rendre réellement libres, transformés à son image, de gloire en gloire. Vous savez que c'est dangereux de rencontrer Dieu. C'est dangereux de rencontrer Dieu. Vous voyez l'expérience de Jacob qui a rencontré Dieu. Il a été transformé. À tout point, physiquement, mais même son nom a été transformé, ça va loin, son nom a été transformé, son identité même a été transformée. Et quand on rencontre Dieu, on ne peut pas ressortir d'une rencontre personnelle avec Dieu de la même manière. C'est dangereux de rencontrer Dieu, la religion n'est pas dangereuse, elle est dangereuse pour d'autres points parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Mais la véritable connaissance de Dieu, la véritable rencontre de Dieu, elle est dangereuse parce qu'elle va nous changer intérieurement. Et moi je dis amen, personnellement je dis amen. Et dernier point, elle va nous permettre, cette connaissance de Dieu, d'avoir la grâce et la paix en partage. On a tellement besoin de vivre la grâce de Dieu et la paix dans notre cœur. 2 Pierre 1:2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La grâce et la paix sont proportionnelles à la connaissance que nous avons de Dieu. En conclusion, on peut revenir dans Osée, on va terminer là, Osée 6. De 1 à 6, Osée dira, venez, retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Peut-être tu es malade. Et Dieu dit, si tu reviens à lui, Dieu va te guérir. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Amen. Amen. Il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra à nous. Osée 10, 12, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Cette exhortation, elle est pour ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais elle est également pour ceux qui marchent avec lui. Parce que revenir, ça veut dire venir. On est venu une fois, on est venu aujourd'hui, mais demain il faut revenir. Donc cette exhortation, elle est pour tout le monde. Il faut revenir à Dieu. On ne peut pas s'arrêter sur ce qu'on a fait. C'est continuellement renouvelé. Et si à un moment donné, on a été dans la rencontre avec Dieu, on a été transformé, mais que après on vit sur nos acquis et qu'on a plus cette rencontre rafraîchissante avec Dieu, eh bien on retourne à ce qu'on était. Et ça peut même être pire. Et on revit des choses même qu'on a revécues. Et on se trouve à vivre des combats qui sont des combats terribles. On se dit, c'est pas possible. Mais là, le problème, c'est qu'il faut revenir à Dieu. Revenons à Dieu, revenons à Dieu. Reviens, mon frère, reviens, ma sœur. Il ne te jugera pas, il sera là pour te relever, pour te guérir, pour panser tes plaies. Amen.